France Inter, il est 13h. C'est le journal avec Bruno Duvic. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, radiographie des comportements sur autoroute avant les grands départs. Autour de 10% des automobilistes et chauffeurs routiers conduisent en tenant un téléphone à la main. Plus de Français attendus en vacances cette année et plus en France. Cela veut-il dire que les routes seront particulièrement chargées? Nous verrons cela avec un des représentants de Bison Futé. Les habitudes au volant, autre sondage. Quand le trajet est long, devinez qui conduit?
C'est moi. Par sécurité, c'est moi. Madame, elle aime bien se reposer à côté sur la route.
Eh oui, dans 8 cas sur 10, pour les longs trajets, c'est monsieur qui conduit. Nous irons en reportage sur une aire d'autoroute. Le Covid et le variant Delta continuent de progresser vite. Le ministre de la Santé, ce matin, sur France Inter.
Il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays. Il était pas loin de 50% hier soir. Et donc, il entraîne une augmentation à nouveau des contaminations en France et dans beaucoup de pays qui nous entourent.
Le conseil scientifique appelle à la vaccination obligatoire pour les soignants. C'est dans ce contexte qu'une petite partie des discothèques rouvre ce soir en France. Une jeune fille de 17 ans tuée près de Marseille, 6 morts dans des règlements de compte dans la région en 2 semaines. Ce sont majoritairement des Colombiens. On n'en sait plus sur le commando qui a assassiné le président haïtien. Conséquence politique, une bataille d'influence entre deux premiers ministres. Le sport et le débat en Angleterre avant la finale de l'Euro. Faut-il instaurer un jour férié lundi si l'équipe nationale l'emporte dimanche? À Cannes, les festivaliers accusés de porter le masque sur le bras plus que sur le visage. Juste avant 14h, Cannes côté cinéma avec Laurent Delmas, La fenêtre sur le monde et le film du Tchadien Mamad Saleh Haroun. À 13h30, notre invitée est la nouvelle présidente de Région de France depuis ce matin. Carole Delga vient d'être élue à ce poste. La présidente d'Occitanie est une des personnalités qui monte à gauche depuis les régionales. Toutes vos questions à Carole Delga sur l'union de la gauche, la décentralisation et les sujets que vous souhaiterez, c'est dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Et puis avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson, nous écouterons du Robbie Williams. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le premier gros week-end sur les routes commence ce soir. C'est orange aujourd'hui et demain dans le sens des départs et même rouge en Ile-de-France ce vendredi. Et une batterie de chiffres permet de cerner cette saison 2021 sur les routes. Plus de Français vont partir selon les estimations des professionnels du tourisme. 37 millions, 4 de plus qu'en 2019. Et à 85% contre 70 habituellement, ils partiront en France. Et à l'heure où les grands axes vont se remplir, l'Association française des sociétés d'autoroutes publie une étude en forme d'avertissement. Elle a mené une enquête empirique. 5 portions d'autoroutes sillonnées, plus de 7000 véhicules observés, tout particulièrement sur l'autoroute A1. Conclusion, 8% des conducteurs de voitures, 11% des conducteurs de camions tiennent distinctement leur téléphone en main en conduisant. Il y en a sans doute davantage qui n'ont pas été repérés par ces observateurs. Christophe Boutin est le délégué général de l'AFSA. Il s'arrête sur les chauffeurs de camions, puis il élargit sur le thème téléphone et conduite.
À 11% de chauffeurs qui tiennent le téléphone, il faut en ajouter 13% qui ne regardent pas la route pendant qu'ils ont été observés. Et quand je dis ils ne regardent pas la route, c'est plusieurs secondes d'affilée. Hein. C'est pas juste un clin d'œil pour s'échapper. Ça veut dire qu'un poids lourd sur quatre, ne regarde pas la route alors que son camion avance. Et on le voit dans les causes principales d'accidents mortels sur autoroute, la somnolence, qui est le facteur numéro un, est en train de se faire rattraper par le facteur inattention qui est, il faut se le dire, l'usage du téléphone.
Parce qu'il y a ceux qui ont le portable à la main et puis il y a ceux qui téléphonent avec le Bluetooth ou un kit main libre.
Alors en plus, effectivement, vous avez les usages qui ne sont en tout cas pas sanctionnés par la loi et dont on sait qu'ils sont également dangereux pour la sécurité routière puisque les études démontrent que quand vous passez une conversation téléphonique, vous multipliez par 3 votre risque d'avoir un accident, par 3. Donc c'est assez considérable. C'est pas du tout la même chose de téléphoner que de converser avec un passager qui sera à côté de vous et qui voit la situation comme vous la voyez vous.
Un propos recueilli par notre consoeur de France Info, Solène Cressant. Bonjour Laurie Vax.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le Bison Futé, c'est vous en quelque sorte. Vous êtes au ministère des Transports en charge de ce service Bison Futé. Alors je le disais, plus de Français devraient partir en vacances cette année et davantage en France. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura beaucoup de monde cet été sur les routes?
Alors on est revenu à un niveau de trafic qui est un niveau normal, en fait, pré-crise Covid. Et nos prévisions indiquent qu'une année relativement, j'allais dire classique, s'agissant des jours sous tension attendue.
Comment travaillez-vous? Comment faites-vous vos estimations pour dire voilà, ça va être rouge, ça va être orange, ça va être vert? Comment travaillez-vous?
Alors, on a adapté un petit peu nos méthodes hein, depuis l'année 2020. On a classiquement une façon de travailler qui s'appuie à la fois sur des algorithmes et des données de trafic qui permet de faire des prévisions. Et puis, il y a une partie d'expérience, enfin, d'expertise humaine, oui, avec des traficiens, des prévisionnistes qui permet de définir ces résultats-là.
Ce service Bison Futé, d'ailleurs, vous êtes combien de personnes à y travailler?
On est, au niveau central, on est 12, mais après, on s'appuie sur le travail de nombreux collaborateurs en dehors.
De nombreux collaborateurs un peu partout en France, j'imagine. Vous avez des correspondants partout en France. Alors, il y a toujours cette question, quel est le bon jour, le bon moment pour partir? En gros, comment éviter les galères? Généralement, le jour le plus difficile, quel est-il? C'est le vendredi ou le samedi, Laurie Vax?
Ça dépend si on habite en Ile-de-France, mais généralement, c'est plutôt le samedi.
Plutôt le samedi. Pour quelle raison?
Ouais, c'est lié à des réservations saisonnières hein, qui se font généralement du samedi au samedi. Oui. C'est des comportements qui sont ancrés depuis longtemps et qui font qu'on a plus de monde mécaniquement le samedi sur les routes. Et puis, il n'y a pas toujours la possibilité pour les gens de partir le vendredi.
Et en Ile-de-France, le vendredi est particulièrement chargé parce qu'il y a à la fois les gens qui partent et les gens qui travaillent, c'est ça?
Oui, tout à fait. En tout cas, au début de l'été, c'est ça. L'Île-de-France se vide au fil de la saison.
Et globalement, le conseil, si c'est possible, alors effectivement, il y a les exigences des réservations, mais le conseil, c'est de partir le dimanche, qui est toujours un jour plus facile.
Oui, alors ça dépend évidemment des week-ends concernés, des axes, etc. Mais effectivement, globalement, le dimanche est moins chargé. Ouais.
Autre conseil, est-ce que ça sert à quelque chose de partir tôt le matin ou désormais, et particulièrement évidemment en juillet-août, de toute façon, il y aura du bouchon, quelle que soit l'heure à laquelle on part?
Alors, ça peut avoir un intérêt pour certaines destinations, mais il y a certains axes sur le réseau routier, je pense à la 7 notamment, autoroute du Soleil, oui, qui est très encombré sur une très grande amplitude de la journée, donc même partir tôt ne permet pas d'éviter forcément les bouchons, mais il y a des axes pour lesquels c'est très intéressant.
Justement, vous parliez de la 7, on a beaucoup dit ces derniers temps qu'il y avait, comment dire, des mouvements de population, qu'il y avait un début d'exode urbain, disons-le comme ça, des gens qui quittent les métropoles pour aller s'installer un peu plus loin, des destinations qui ont été privilégiées au fil du confinement. Est-ce que ça, vous le voyez dans vos modèles? Est-ce que vous pouvez nous dire que sur les routes, par exemple, en direction de l'Ouest, de la Bretagne, des Pays de la Loire, il y aura plus de monde que d'autres années?
Alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons. Parce que pour nous, l'année de référence, c'était 2016. C'est sûr que les comportements de mobilité ont un petit peu changé avec avec la crise, en fait, oui, le travail et le déplacement dans d'autres régions. On observe quand même effectivement une petite hausse sur les axes qui mènent vers la Normandie et puis aussi sur la côte atlantique. C'est vrai.
Là, on est le 9 juillet. Est-ce que vous allez beaucoup modifier vos prévisions pour les week-ends et les semaines à venir? Comment vous ajustez au fil des jours?
On a gagné, j'allais dire, en agilité dans notre processus, ouais, d'élaboration des prévisions avec la crise. On s'adapte évidemment aux annonces qui sont faites par le gouvernement, qui peuvent impacter le trafic quand il y a des restrictions de déplacement.
Oui.
On a vu qu'aujourd'hui, le conseil scientifique avait fait aussi une annonce là-dessus, enfin une recommandation, donc on sera très vigilant. On s'adapte aussi aux événements qui peuvent impacter le trafic, l'organisation c'est pas le cas cette année, mais d'un G7 ou Tour de France, par exemple.
Oui.
Voilà, on s'ajuste en continu et on tire aussi le bilan de chaque week-end coloré qui est passé pour voir si... s'il y a des changements à faire pour les prévisions qui suivent.
Et selon toute probabilité, la journée infernale de l'été, ce sera le samedi 31 juillet, j'imagine.
C'est ça.
Merci beaucoup, Laurie Vax, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et restons encore un instant sur les habitudes des Français au volant. Avec ce dernier sondage, en croire l'Institut IFOP, quand on part en couple homme-femme ou en famille, eh bien, c'est très, très souvent monsieur qui conduit, lui, au volant dans 8 longs trajets sur 10. Voilà les chiffres. Voici maintenant les mots avec ces témoignages recueillis par Sophie Potvin sur l'aire d'autoroute de Morinvilliers, près de Paris.
Quand il faut choisir qui conduit, il y a ceux qui ne doutent pas.
C'est moi. Par sécurité, c'est moi. On est parti d'à côté de Melun, 5 minutes de Melun, et on va à côté de Caen. Il y a 3h30 à peu près. Madame, elle aime bien se reposer à côté sur la route.
Pour les très longs trajets, oui, on se partage. Mais autrement, c'est toujours mon mari qui conduit.
Bah, c'est vrai que quand c'est des trajets la nuit, c'est plutôt monsieur qui conduit et moi qui dors.
Et il y a ceux qui ont quelques stratégies.
Donc du coup, j'ai conduit jusqu'ici. Et mon père fera la suite parce que j'aime pas conduire dans Paris. On le laisse à mon père parce qu'on trouve que c'est compliqué et que c'est dangereux. C'est les hommes en général parce qu'ils sont plus rassurés que nous.
Et enfin, il y a les 10% restants.
Elle préfère conduire, je n'aime pas conduire, donc elle fait souvent un peu plus que moi.
En règle générale, depuis qu'on est mariés, je conduis plus, on va dire, c'est tout. Mais sinon, bien sûr, il prend le relais.
Qu'importe qui conduit, cela n'empêche pas les désaccords. Plus de la moitié des couples déclarent se disputer en voiture pendant les longs trajets. Pas le meilleur moyen de commencer ses vacances.
Et avant de prendre le volant, vous le savez, non, ces vacances ne se passeront pas comme avant le Covid. Le variant Delta met du gris dans ce début d'été. Alors, quelle est la situation ce vendredi 9 juillet? D'abord, les chiffres à l'hôpital restent bas. 7400 personnes hospitalisées, dont moins de 1000 en soins critiques. Mais il y a l'impact du variant. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était ce matin l'invité de France Inter. Il a donné les derniers chiffres.
Oui, ça va à toute vitesse. Le variant Delta prend le dessus. Il sera sans doute majoritaire dès ce week-end en France. Et comme il est 60% plus contagieux que le variant anglais, les contaminations remontent en conséquence. 2400 cas par jour en moyenne. L'incidence n'est pas très élevée encore. Mais ce qui inquiète, c'est la dynamique. Le nombre de contaminations a augmenté de 50% en une semaine. Comme l'été dernier, ce sont les jeunes, moins vaccinés, qui sont les plus touchés. Alors Olivier Véran leur demande instamment aujourd'hui de redoubler de vigilance.
De façon générale, on ne doit pas jouer évidemment avec le feu et donc il faut mieux prévenir que guérir. Revenir à la pratique que les Français connaissent très bien, le gel hydroalcoolique, le masque partout où il est indiqué, la distanciation sociale, on évite les grosses fêtes clandestines. Donc on recommence à faire très attention à soi et on profite de la vie évidemment quand même.
Pour ce qui concerne la vaccination obligatoire des soignants, le sujet est en concertation encore, mais le ministre constate que beaucoup y sont favorables. Olivier Véran reste néanmoins convaincu que la vaccination fait son chemin parmi les soignants, dans les EHPAD en particulier.
La couverture vaccinale, depuis qu'on parle de cela, a augmenté. On est passé de 52 à 60% du personnel des EHPAD vaccinés en l'espace d'un mois. Mais enfin, il faut que ça aille plus vite. À ce stade, je le dis, aucune décision n'a été prise. Il semble qu'un consensus sociétal se dégage pour aller vers cela. Après, il faut relativiser. Ce ne serait pas une première dans notre histoire. En 1991, la vaccination est devenue obligatoire contre l'hépatite B pour tous les soignants.
Sur la réouverture des discothèques, Olivier Véran souligne que ça se fera avec beaucoup de vigilance et un protocole sanitaire très strict. Il y aura des contrôles et en cas de manquement, dit-il, des sanctions.
Charge aux discothèques de vérifier la validité du pass sanitaire des personnes qui rentreront. Et si il devait y avoir un cluster, ça apparaîtra comme le nez au milieu du visage. Si sur 500 jeunes, vous en avez ne serait-ce que 5 ou 10 qui sont positifs après une soirée dans une discothèque, on saura faire le tracing. Donc il y aura des contrôles et des sanctions le cas échéant.
Des sanctions s'il le faut. Donc on ouvre, oui, mais s'il fallait revenir en arrière parce que les choses tournent mal, prévient le ministre, nous prendrons, dit-il, nos responsabilités.
Vaccin obligatoire ou pas pour les soignants, le conseil scientifique dit oui. Le conseil se prononce donc pour cette obligation qui pourrait même être étendue, selon ces scientifiques, aux aidants, au personnel des services à la personne et à l'ensemble des professionnels exposés et exposant à un risque pour autrui. Parmi les tendances dégagées ce matin par le ministre de la Santé, la vaccination des ados démarre sur un bon rythme. Les centres de vaccination voient arriver un peu plus de monde que ces dernières semaines. Et puis Véronique nous le disait, l'appel aux soignants en EHPAD à se faire vacciner, et pour ceux qui ne l'étaient pas, est en partie entendu, de 52 à 60% de vaccinés en un mois, selon Olivier Véran. Qu'en disent ceux qui travaillent auprès des personnes âgées? Annabelle Weck est directrice de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées.
C'est assez hétérogène en fait. On a effectivement des adhérents qui nous indiquent que certains professionnels sentent l'obligation arriver et donc vont se faire vacciner. Mais il y a encore les irréductibles qui souhaitent pas y aller, qui sont arc-boutés et qui ne souhaitent vraiment pas se faire vacciner. Donc voilà, on sent que ça progresse, c'est bien, mais il y a encore du chemin à faire. Les médecins en général, hein, pas que dans les EHPAD, sont les catégories de professionnels de santé les plus vaccinés. Suivent ensuite les infirmières, bien moins vaccinées, et a priori vraiment à la fin les aides-soignantes qui sont peu vacciner. L'enjeu, c'est de vacciner l'ensemble des professionnels qui travaillent dans le secteur de la santé, dans le secteur du grand âge, du médico-social, mais c'est pas que les soignants. Dans les EHPAD, vous avez des personnels de l'accueil, de la cuisine, des agents d'accompagnement, les aides à domicile également. Tous ces professionnels-là doivent se vacciner, c'est essentiel pour protéger les plus vulnérables. Si la pédagogie ne suffit pas, il faudra alors passer par l'obligation vaccinale.
Propos recueillis par Cécilia Arbona, c'est lundi que se réunit le Conseil de défense sanitaire pour examiner cette question de l'obligation de vaccin pour les soignants. Un projet de loi pourrait être présenté le lendemain en Conseil des ministres. Parmi les mesures qui seront également examinées lundi figure l'extension du pass sanitaire, le renforcement de l'isolement pour les personnes positives et un renforcement du contrôle aux frontières. Et alors que Delta menace, on le disait, c'est aujourd'hui que les discothèques peuvent rouvrir. Jauge à 75%. passe sanitaire à l'entrée, mais pas de masque obligatoire. Seulement un quart à un tiers des boîtes de nuit s'apprêtent à remettre la musique. Alors cette réouverture est-elle opportune au moment où Delta, qui est plus contagieux, devient majoritaire? Les raisons économiques, on les voit bien. 16 mois de fermeture pour ces établissements. Mais qu'en disent les médecins? Un médecin, en l'occurrence, le docteur Alexandre Blebtreux. Il est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Il n'y a pas de demande particulière de refermer ou de reconfiner ou autre chose comme ça. Simplement, il faut qu'on soit tous collectivement conscients que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. On a un virus qui est là, 50% de la population française qui n'a aucune immunité vis-à-vis d'une des formes de ce virus, soit parce qu'ils n'ont pas été infectés, soit parce qu'ils sont pas encore vaccinés. Et donc, le virus a encore à peu près 30 millions de Français à infecter et avec lequel il va s'amuser. Aussi, on espère par pensée magique que cette fois-ci, on pourra rester avec une vie normale, des activités de loisirs collective ouverte sans que les gens soient vaccinés et qu'il n'y aura pas de nouveau un pic de saturation du système hospitalier, un pic d'admission en réanimation et un pic de mortalité. Ça s'appelle de la pensée magique et des rêves.
Le docteur Alexandre Blebtreux avec Cécilia Arbona. Sachez encore que Pfizer et BioNTech comptent présenter dans les semaines à venir une demande d'autorisation pour une troisième dose du vaccin en Europe et aux États-Unis. Un rappel qui interviendrait 6 mois après la seconde dose. Elle avait 17 ans. Elle est morte la nuit dernière, touchée à l'arrière d'une voiture par des tirs qui, selon les premiers éléments de l'enquête, ne la visaient pas directement. Cela s'est passé à Septèmes-les-Vallons, près de Marseille. 13 morts dans des règlements de compte depuis le début de l'année dans la région marseillaise. 6 en 2 semaines. Mathilde Vinceneux est allée pour France Inter ce matin à Septèmes-les-Vallons.
La voiture était stationnée tout près de ce lotissement, à côté d'un ensemble HLM, quand 2 hommes cagoulés sont arrivés. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont tiré avec des armes longues, fusils à pompe, kalachnikov. Cet homme a tout entendu, il a d'abord cru à des pétards.
2 minutes après, je suis sorti, là j'ai vu les voisins dehors. Il y avait une jeune fille là, dans la voiture allongée derrière, en train d'agoniser. J'ai vu des blessures sur la tête, tout ça. Après, c'est là que j'ai compris que c'était des coups de feu. C'est choquant, surtout que les enfants, à peine ils rentraient avec les amis, là, jouaient avec les amis dehors. Là. J'ai peur surtout pour eux et tout ça, mais heureusement qu'ils sont rentrés à temps, on va dire, si on peut dire comme ça. Même là, je suis encore un peu sous le choc.
Ce matin, des membres de la police judiciaire étaient sur place. Ils ont frappé aux portes des voisins. Cette habitante a du mal à croire à cette fusillade dans ce quartier pourtant paisible.
Ils ont tiré, ils ont fait à l'aveuglette, quoi. C'est triste. Voilà, c'est de la colère, de la tristesse.
Les tireurs ont pris la fuite. Le parquet de Marseille est saisi de l'affaire. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
De Marseille à Aix-en-Provence et ce verdict en appel de la cour d'assises hier, c'est l'affaire Air Cocaïne. 700 kilos de drogue saisis dans un jet en 2013 en République Dominicaine. 18 ans de prison en appel pour le commanditaire, 6 ans pour les 2 responsables de la compagnie qui a organisé le vol. Mais les 2 pilotes du Falcon, qui depuis le début affirmaient ne rien savoir de la cargaison, sont acquittés. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
C'est la fin d'une histoire absolument folle pour Bruno Odos et Pascal Forêt.
Une histoire qui démarre sur le tarmac de Punta Cana une nuit de mars 2013. Un jet privé s'apprête à décoller pour Saint-Tropez. La police dominicaine intervient. 26 valises remplies de cocaïne. Les caméras sont là pour filmer l'opération.
What's your name?
Odos.
Where are you from?
France.
Your name?
Pascal Forêt, from France.
Les 2 anciens militaires clament leur innocence depuis leur cellule. La justice dominicaine les condamne à 20 ans de prison en 2015, confirmé en 2016. Mais entre-temps, leur comité de soutien a organisé leur fuite de l'île par bateau. Aucun regret, explique alors Pascal Forêt chez nos confrères de France 2.
Je préfère l'action à l'inaction. J'ai fait 2 ans et demi d'inaction à regarder le plafond de ma chambre ou de ma cellule pendant 2 ans et demi. Je ne peux pas me résoudre à me faire condamner à 20 ans de prison en République dominicaine.
Mais en 2019, en France, c'est la douche froide. Procès dans le volet français de cette affaire. 6 ans de prison chacun. Ils tentent l'appel et obtiennent donc finalement hier leur acquittement, un soulagement et un signal, estime Philippe Henneman, fondateur de leur comité de soutien et pilote chez Air France.
C'est une jurisprudence qui se forme sur le fait que les pilotes ne sont pas responsables du contenu des bagages de leurs passagers dans le cadre d'un vol commercial, et on parle bien d'un vol commercial et non pas privé, et ceci, quelle que soit la taille de l'avion. Et c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à faire entendre.
Les deux responsables de la société de jet privé SNTHS qui employaient Bruno Audos et Pascal Fauret ont, eux, vu leur peine de 6 ans de prison confirmée en appel.
Ils se sont fait passer pour des membres de l'agence antidrogue américaine. Ils sont entrés dans la résidence du président et ils ont tiré plus de 30 coups de feu. Voilà comment le gouvernement haïtien raconte l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, dans la nuit de mardi à mercredi. Ce sont des tueurs professionnels, des mercenaires, dit l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. Christian Cheneau, au fil des heures, on en sait plus sur ce commando de près de 30 personnes.
Oui, on peut parler d'un escadron de la mort qui n'a laissé aucune chance au président haïtien. Certains membres du commando sont en effet d'anciens militaires de l'armée colombienne. Parmi eux, on trouve aussi 2 ressortissants américains d'origine haïtienne. Devant la presse, le chef de la police locale a présenté tout un arsenal de fusils d'assaut, de machettes, de talkie-walkie appartenant aux suspects. La police haïtienne recherche désormais le ou les commanditaires de cette exécution. Alors, s'agit-il d'un crime politique ? On sait que le président Jovenel Moïse était détesté par une bonne partie de la population et qu'il avait de nombreux ennemis dans l'establishment haïtien, ou s'agit-il plutôt d'un assassinat lié aux narcotrafiquants compte tenu du mode opératoire de ce meurtre ? Ce qui est troublant, c'est que les tueurs semblent avoir agi avec une étonnante facilité. On ne dénombre aucun blessé parmi les policiers censés protéger le président haïtien. Quant à la première dame, Martine Moïse, blessée dans l'attaque, elle est actuellement soignée dans un hôpital de Miami. Son état s'est stabilisé et son témoignage sera sans doute précieux pour les enquêteurs.
Au plan politique, l'état de siège j'ai déclaré, ce qui veut dire que le gouvernement concentre un peu plus les pouvoirs. Qui dirige ? Ça n'est pas clair. Un Premier ministre par intérim, Claude Joseph, a été nommé après l'assassinat. Mais quelques heures avant sa mort, le président avait nommé un autre homme, Ariel Henry, à la tête du gouvernement. Les États-Unis appellent Haïti à maintenir les élections législatives et présidentielles prévues d'ici à la fin de l'année. En Afghanistan, alors que les États-Unis s'apprêtent à complètement quitter le pays fin août, les talibans sont plus que jamais à nouveau en lutte active contre le gouvernement de Kaboul. Les fondamentalistes disent contrôler 85% du territoire. Nous parlions tout à l'heure du Covid en France. En Asie, l'inquiétude à nouveau est très vive également. En Indonésie, 270 millions d'habitants dans l'archipel, des centaines de décès, plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens, les hôpitaux sont débordés. Au Vietnam, Ho Chi Minh Ville, 9 millions d'habitants est confiné, couvre-feu à Bangkok, en Thaïlande, de nouvelles infections en Corée du Sud, pays plutôt modèle dans la lutte contre l'épidémie. Et puis au Japon, l'état d'urgence sanitaire à Tokyo, les Jeux Olympiques dans 2 semaines se tiendront donc très largement à huis clos. Qu'en disent les Japonais ? Élément de réponse avec ce reportage de Karine Nishimura.
Les Japonais acceptent assez facilement que ces jeux soient sans public. Bien sûr, ils sont tristes, mais d'un autre côté, ils voient assez facilement le bon côté des choses, à l'instar de cette commerçante.
C'est triste, bien sûr, pour les athlètes de ne pas être encouragés. Mais d'un autre côté, ça peut aussi leur enlever un poids de savoir que personne ne sera contaminé dans les stades. Psychologiquement, c'est peut-être mieux.
Parfois, cependant, il y a de la colère. Elle est vive chez les restaurateurs qui sont les plus visés par les mesures sanitaires et ont l'impression d'avoir été sacrifiés en subissant toutes les restrictions pour que les Jeux Olympiques puissent avoir lieu.
On n'y peut rien pour faire court, c'est tout.
Mais il y a aussi un intérêt pour les performances sportives, l'émotion qu'elles suscitent.
Je pense que je vais regarder à la télévision. Je ne sais pas en revanche si ce sera excitant. De toute façon, même avec du public, je ne serai pas allé au stade.
C'est là-dessus que le gouvernement mise, sur la conviction que lorsque les compétitions auront commencé, tout le monde se laissera prendre au jeu, qui le cas échéant seront, du point de vue des organisateurs, une réussite. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Le Covid qui perturbe les grandes compétitions sportives, masque obligatoire sur le bord de la route du Tour vendredi et samedi de la semaine prochaine en Gironde, décision de la préfecture. Pour l'instant, l'étape du jour mène les coureurs de Nîmes à Carcassonne et Tadej Pogacar est toujours en jaune. Dimanche, ce sera la finale de l'Euro de football dans une Angleterre confrontée au variant Delta, Italie-Angleterre à Wembley. Mais c'est un autre débat, pas l'épidémie, qui occupe l'Angleterre à 2 jours de cette première finale internationale pour l'équipe depuis 1966. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
En direct de Londres, les Anglais se moquent souvent des 35 heures en France. Là, le débat, c'est jour férié ou pas lundi si l'équipe nationale l'emporte dimanche.
Exactement. Stay home if football's coming home. Restez à la maison si le football revient à la maison. C'est sous cet intitulé que Lee Jones, un citoyen anglais, a lancé une pétition, comme il est possible de le faire sur le site du Parlement. On est à l'instant même, puisque le décompte se fait en temps réel, à 325 841 signatures. Tenez, 842, je viens de rajouter la mienne.
Ah oui,
sur la
même.
Radio londonienne LBC, le ministre de l'économie s'est retrouvé face à un journaliste qui le supplie d'accorder ce jour férié.
Can we please have a bank holiday on Monday?
J'espère que vous profiterez des 45 minutes de plus au pub. Oui, parce que le gouvernement a déjà décalé l'heure légale de fermeture des pubs pour dimanche soir pour que les supporters ne soient pas mis dehors avant la fin en cas de prolongation, voire de tir au but. Trois quarts d'heure de plus au pub, c'est une raison supplémentaire pour ne pas travailler le lendemain, selon un chroniqueur d'ITV ce matin.
Allez, donnez-nous un jour férié. Pourquoi ne pas le donner? C'est un moment merveilleux dans l'histoire du pays. On a beaucoup parlé de la fierté nationale retrouvée grâce à Gareth Southgate et l'équipe. Fierté anglaise avec tolérance, compassion, décence, travail d'équipe, communauté, tout ça. C'est ce qu'on devrait célébrer avec un bon vieux jour de congé à la britannique.
Sur ce débat brûlant, Boris Johnson, lui, prend la tangente.
C'est tentant. Voyons ce qui se passe.
Évidemment, dans tout ça, les Anglais en oublieraient presque un détail, c'est que pour gagner l'euro et donc faire la fête, il va d'abord falloir battre l'Italie.
On va avoir votre influence, Richard. Combien de signatures, là, depuis le début de votre reportage?
325 921.
Mettez la mienne, s'il vous plaît. À bientôt, Richard Place. À Londres, encore les demi-finales de Wimbledon cet après-midi. L'Italien Berrettini face au Polonais Hurkacz et Maître Djokovic face au Canadien Shapovalov. L'épidémie et les gestes barrières contre elle, il en est question à Cannes. Un journaliste chroniqueur du New York Times a filmé la salle lors de la cérémonie d'ouverture. Beaucoup de festivaliers étaient sans masque. Alors, il y a une tolérance pour les passages sur scène et les séances photos, mais c'est tout. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Depuis la sortie de cette vidéo sur les réseaux sociaux et dans le petit monde de Cannes, c'est la controverse, Yann.
En effet, ces images ont suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Un relâchement en contradiction avec les engagements de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes.
C'est difficile de faire des exceptions pour le Festival de Cannes. On ne veut pas non plus passer pour des privilégiés. Le glamour ne justifie pas que nous soyons plus légers face à l'épidémie.
Hier, Thierry Frémaux a donc été obligé de faire une mise au point avant la projection d'un film en compétition. Les masques, c'est la règle et la garantie que le festival aille jusqu'au bout, a-t-il rappelé. Pierre Lescure, le président du festival, a même enregistré un message spécial diffusé avant chaque séance. Et ce matin, sur la Croisette, nous avons vu des agents médiateurs qui sont là pour rappeler les consignes sanitaires. Mais en général, dans les salles de projection, les festivaliers portent le masque, même s'il n'est pas toujours évident, c'est vrai, de respecter les gestes barrières.
Là, je sors d'un film, tout le monde avait son masque, ça s'est très bien passé, les consignes sont appliquées, c'est très simple. Donc moi, je trouve que ça se passe très très bien.
Est-ce que vous trouvez que les mesures sanitaires sont plutôt bien suivies sur ce festival ?
Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que la distanciation, il faut la garder, c'est pas ça dans les salles.
Malgré tout, les contrôles restent stricts pour entrer dans le palais des festivals. Il faut obligatoirement présenter un certificat de vaccination valide ou un test de dépistage de moins de 48 heures.
Yann Gallic en direct de Cannes pour France Inter Cannes. Côté cinéma, on y revient avant 14h avec la météo cannoise de Laurent Delmas. Il sera notamment question du film du Tchadien Mamad Saleh, Haroun. Il nous reste à voir le temps en ce jour de départ.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
De départ pour une partie des vacanciers et des Français. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Quelle est la tendance du jour, Élodie?
Eh bien, moins d'averses aujourd'hui. Alors, il en reste quelques-unes sur le nord-ouest sous un ciel encombré. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre Val-de-Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France, le nord-est et le Lyonnais. Là, ce sont les éclaircies qui s'imposent progressivement. Une petite averse reste possible du nord de la Seine à l'Alsace. Du sud de l'Aquitaine vers le sud des Alpes et la Méditerranée. Là, c'est du soleil, mais encore du vent autour de la Méditerranée, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure et même 80 pour la Corse. Côté thermomètre, petite hausse. Alors, 18 à 24 degrés du nord-ouest au Pas-de-Calais. Mais 23 à 27 ailleurs et jusqu'à 31 en Méditerranée. Et puis un petit mot du week-end, plutôt mitigé au nord avec des pluies parfois orageuses samedi, davantage d'éclaircies pour dimanche. Et puis au sud, un temps plus estival avec du soleil, des températures en hausse. Mais attention, une dégradation orageuse s'amorcera par le sud-ouest dès dimanche soir.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. Dans un instant, la présidente de Région de France, Carole Delga, est notre invitée. Toutes vos questions à la socialiste au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Inter aime
la 53e quinzaine des réalisateurs, actuellement à Cannes. La quinzaine des réalisateurs célèbre la richesse et la diversité de la création cinématographique contemporaine. 25 longs-métrages et 10 courts-métrages à découvrir sur la croisette et bientôt dans toutes les salles de cinéma. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du 7e art. La 53e quinzaine des réalisateurs jusqu'au 17 juillet à Cannes, un événement France Inter.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
C'est l'une des personnalités qui sont un peu plus imposées dans le monde politique depuis les régionales. La socialiste Carole Delga, réélue à la tête de l'Occitanie, est aussi désormais présidente de Région de France. C'est tout frais, ça date de ce matin. Elle succède donc à Renaud Muselier. Comment aller plus loin dans la décentralisation? L'union de la gauche, en partie au moins, est-elle réellement impossible? Toutes vos questions à Carole Delga, c'est maintenant au 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour madame.
Bonjour.
Un point de l'épidémie d'abord avec vous, Carole Delga. Qu'en est-il en Occitanie? Est-ce que vous avez les chiffres du variant Delta dans votre région?
Ils sont pour l'instant assez mesurés en Occitanie, même s'il y a un cluster là dans l'Hérault depuis hier. Mais nous sommes en vigilance avec le directeur de l'ARS et avec le préfet de région.
Un cluster dans l'Hérault, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Nous avons voilà quelques personnes qui présentent ce variant. Il y a 16 cas donc qui ont été contaminés dans un cadre scolaire et donc là nous sommes en train d'analyser l'origine de la propagation et nous avons pour l'instant voilà une situation à part ce petit cluster. Nous avons une situation qui est maîtrisée sur la question du variant Delta.
Est-ce que la carte des centres de vaccination va beaucoup évoluer pour juillet-août en Occitanie, madame Delga? On a vu qu'en Ile-de-France, une partie allait fermer parce que les gens seront en vacances et donc un peu plus loin. Vous, il y a à la fois des lieux touristiques et puis des lieux où il y aura moins de personnes que d'habitude. Est-ce que la carte va évoluer?
Non, je demande au préfet de région que la carte des centres de vaccination n'évolue pas, puisque nous sommes très bien dotés avec un très bon maillage territorial. Il est nécessaire en Occitanie de le maintenir, parce que nous avons 6 millions d'habitants, mais aussi nous accueillons beaucoup de touristes. Et donc, nous allons continuer à promouvoir la vaccination de façon forte.
Tous les centres de l'année restent ouverts. Il y en a d'autres qui vont ouvrir dans les lieux touristiques?
Il va y avoir à ce moment-là des centres mobiles, oui. Et la région a mis en place un bus mobile de vaccination qui pourra en effet aller sur les lieux de fréquentation touristique voilà, qui seront plus élevés et en particulier à partir du 14 juillet.
Un bus mobile, comment aller vers les personnes? La presse locale en Occitanie publiait les chiffres des taux de vaccination et la Lozère, qui est pourtant le département le moins peuplé de France, affiche le moins bon résultat, moins de 50%, 47% de personnes primo-vaccinées. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller vers ces personnes dans des régions un peu reculées?
Eh bien, nous allons en effet multiplier les bus mobiles sur la Lozère parce que on avait vu au début de la vaccination une forte mobilisation dans ce département et après un fort essoufflement. Oui. Donc nous allons de nouveau communiquer et c'est pourquoi, en tant que présidente de Région de France, j'ai fait voter une motion à l'unanimité des présidents de région pour demander au gouvernement une grande campagne de communication nationale à l'instar de ce qui a été mené menée sur la région sud avec une campagne de communication très percutante indiquant que la vaccination avait des effets désirables et permettait justement de retrouver une vie normale.
Voilà, une campagne qui a une tonalité positive. On voit des couples et dire que bah voilà, quand on est vacciné, on s'embrasse plus facilement et que donc le vaccin peut être désirable. C'est cette tonalité-là aussi que vous souhaitez ?
Exactement, il faut rappeler que la vaccination, c'est le seul moyen d'avoir vraiment des résultats contre ce virus. Il ne faut pas s'abstenir sur la vaccination, au contraire. Et nous avons décidé, tous les présidents de région, d'avoir une demande forte auprès du gouvernement pour qu'il y ait une communication nationale, mais très large, sur l'ensemble des médias, mais aussi sur les panneaux d'affichage.
Occitanie est à côté de l'Espagne et du Portugal, où Delta est particulièrement menacé. Dites-vous, comme Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, si vous n'avez rien réservé, évitez plutôt Espagne et Portugal.
Je pense qu'il faut quand même voilà être voilà assez mesuré. Nous avons en effet pour les trois prochaines semaines des réserves sur l'Espagne et le Portugal, mais il ne faut pas généraliser encore sur le mois d'août parce que des actions sont menées par le gouvernement espagnol, des actions fortes. Donc il faut être prudent, je pense, sur le mois de juillet, et après nous pourrons communiquer sur le mois d'août au vu de la réalité de la contamination dans ces deux pays.
Vaccination obligatoire pour les soignants, vous êtes déjà prononcé pour, le conseil scientifique le fait à son tour aujourd'hui et envisage même d'étendre cette obligation au personnel des services à la personne, à l'ensemble des professionnels exposés et exposant les gens à un risque pour autrui, les aidants aussi. Est-ce que vous êtes pour une large obligation vaccinale, Carole Delga?
Oui, je suis pour une large obligation de la vaccination parce que nous voyons au fil des jours la menace d'une nouvelle vague se confirmer et il faut protéger les populations au maximum et en particulier voilà nos salariés qui œuvrent pour le contact et pour le bienfait de nos habitants. Donc je pense qu'en effet, en toute responsabilité, il faut généraliser au maximum pour les personnels soignants et les personnels qui sont en service à la population, cette vaccination.
Allez, la politique, beaucoup de questions pour vous, Carole Delga. Avant d'aller au standard, celle d'Éric que je prends dans ma voix. Qu'est-ce que la gauche ? Ça, j'aimerais bien vous entendre. C'est quoi la gauche en 2021 ?
La gauche en 2021, ce sont des femmes et des hommes qui se battent pour plus d'égalité dans l'accès à l'éducation, dans l'accès par exemple au stage, avoir une facilité sur l'orientation, pouvoir plus facilement accéder à l'enseignement supérieur. La gauche du 21e siècle, c'est celle qui concilie et écologie et économie, qui défend la République, qui lutte contre le communautarisme, et c'est également la gauche qui défend la souveraineté, que ce soit la souveraineté industrielle, sanitaire, énergétique ou alimentaire. C'est cette gauche qui part du réel et qui veut que chacun trouve sa place dans notre société.
Question d'Arnaud au standard. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour à tous. Déjà, félicitations madame pour vos deux mandats. J'ai une question simple et deux souhaits. Comment vous pensez pouvoir réunir la gauche pour ne pas perdre? Et un deuxième souhait, est-ce que ça ne sera pas, comme d'habitude, une bataille d'égo? Et est-ce qu'on aura un débat qui ne sera pas que lié à la sécurité et à l'immigration?
Carole Delga.
Alors, clairement, il faut abandonner les querelles d'égo, et c'est pourquoi quand j'ai fait le score le plus élevé au régional, quand on m'a parlé de présidentiel, j'ai rappelé voilà ma mobilisation derrière Anne Hidalgo, parce qu'on doit travailler un projet pour qu'il y ait moins d'abstention en France. Il faut en premier expliquer la vision que l'on a pour la République, pour la société, et il faut être en responsabilité. Et ensuite, sur la question de la sécurité, la sécurité est un droit, donc nous devons, nous, la gauche du réel, la traiter. Et moi, en tant que présidente de région, j'ai doublé le nombre de places dans les transports sous vidéoprotection. Et j'ai également de nombreuses actions pour la sécurité. À gauche, il n'y a pas de sujet tabou. Je suis restée fidèle aux valeurs socialistes, mais j'aime l'entreprise. Je mets en place des mesures de sécurité et également, je suis attentive à ce que tous les habitants aient une chance pour l'accès à l'éducation et que les valeurs de fraternité puissent être partagées loin de toutes les idées d'extrême droite.
À propos d'éducation, parmi les sujets que vous voulez remettre sur la table, c'est les rythmes scolaires à l'école, l'école élémentaire. Vous souhaitez qu'on revienne pour tous les élèves à 4 jours et demi, c'est ça ?
Oui, tout à fait, parce que j'ai partagé l'idée de dédoubler les classes, mais cela doit être relié avec des temps d'enseignement hein, au sens large plus grand, parce que c'est un vrai facteur de discrimination sociale que l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, et donc il faut que nos enfants puissent bénéficier d'un encadrement pour des savoirs de base, mais aussi pour l'ouverture au monde. Je peux prendre des exemples sur la pratique artistique, également sur l'accès au sport. Et c'est pourquoi je pense que la semaine de 4 jours et demi permettait d'avoir un vrai effet levier sur la lutte contre le déterminisme social.
Julien Bayou, pour les écologistes, dit « Nous proposerons à la gauche de soutenir notre candidat. Qu'en dites-vous ? »
Je ne dis qu'en premier, arrêtons d'être dans ces histoires d'écurie et parlons du projet. En premier, travaillons ensemble sur le projet pour voilà créer de l'emploi pour tous sur tous les territoires, pour avoir également un accès à l'emploi qui soit facilité par la formation, par la garde d'enfants. Répondons à l'urgence écologique et soyons très ferme sur la défense de la République. Et ensuite, on parle de personnes. Il faut arrêter de prendre le problème à l'envers. Proposons des solutions à la population. C'est ainsi qu'on redeviendra crédible, en toute clarté. Et après, on pourra discuter de qui sera le chef de file ou la chef de file.
Richard, sur l'appli, c'est très bien de gagner les régionales ou la main, mais humilier les écologistes et la France insoumise est un très mauvais signal. Pour la présidentielle, le PS ne gagnera pas sans alliance à gauche. Arrêtez votre sectarisme, vous dit-il. Et c'est vrai que vous avez eu des mots très durs pour Jean-Luc Mélenchon, qui est un obstacle, selon vous, à l'union de la gauche.
Alors tout d'abord, je n'ai pas humilié les écologistes parce que je rappelle que la moitié des conseillers régionaux écologistes donc sont venus avec moi avant le premier tour. José Bové également nous a soutenus. Nous n'avons ensuite, entre les deux tours, pas trouvé d'accord avec la liste du parti Europe Écologie Les Verts. Et ensuite, je pense qu'en politique, il faut dire la vérité, ces désaccords. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon a une dérive quand il parle de complotisme, quand il a des propos sur les violences qui sont ambiguës. Moi, je respecte bien sûr l'ensemble des militants de la France insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon et ses cadres présentent une dérive qui était inquiétante. Le parler vrai, ça conditionne l'action vraie et surtout, ça permet d'agir réellement et de ne pas se perdre dans des débats qui sont complètement stériles et dans des palabres.
Madame la présidente de Région de France, est-ce que le projet de loi décentralisation vous semble faire avancer la cause de la décentralisation justement ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ?
Il ne fait pas assez avancer la décentralisation et c'est pourquoi Région de France va proposer à l'automne un livre blanc sur une nouvelle décentralisation. C'est pas une nouvelle étape, c'est une nouvelle conception du fonctionnement de l'État, de l'ensemble des collectivités locales. Je vais proposer à François Barouin, je vais l'appeler dès cet après-midi pour donc l'ensemble des maires qu'il représente, pour que nous puissions y travailler ensemble. Également le futur ou la future présidente des départements. Et ainsi, nous serons force de proposition pour vraiment être dans une nouvelle ère qui donne plus de réactivité, plus d'adaptation aux besoins de nos concitoyens.
Dans le débat actuel, deux sujets, alors il y en a beaucoup, mais deux sujets. Le Sénat ne veut pas que les régions prennent en charge la gestion des routes. Est-ce que vous souhaitez que les régions, au moins à titre d'essai, prennent en charge la gestion des routes ?
Oui, très clairement, je souhaite que les régions puissent, à titre expérimental, prendre la gestion des routes nationales. Et d'ailleurs, nous avons signé un protocole avec le Premier ministre en Occitanie pour deux premières routes nationales dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Ariège. Il était prévu qu'en septembre, on travaille pour les travaux sur une route nationale en Aveyron et en Lozère. Et donc, je suis très étonnée de ce vote du Sénat, mais je pense qu'il peut être modifié par un nouvel amendement.
Beaucoup de questions sur à propos de transport, sur les trains à grande vitesse. Pourquoi privilégier les liaisons avec Montpellier-Barcelone plutôt que les liaisons Montpellier-Toulouse, vous demande Maurice.
Mais on ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre, c'est que le niveau des travaux est tout à fait différent. C'est que la liaison entre Montpellier et Barcelone est complètement saturée, donc nous avons besoin d'une deuxième ligne, alors que relier Montpellier et Toulouse ne nécessite pas une nouvelle ligne de chemin de fer. C'est par des travaux d'aménagement que nous pourrons avoir un cadencement supérieur.
Merci Carole Delga, vous serez lundi à Villeurbanne auprès d'Anne Hidalgo.
Bien entendu que je serai auprès d'Anne Hidalgo et avec voilà, de nombreux élus et de nombreux membres de la société civile.
Merci Carole Delga d'avoir répondu aux questions de France Inter. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans une dizaine de minutes, la météo cannoise de Laurent Delmas. Bonjour Laurent.
Bonjour Bruno, comment ça va?
Ça va pas mal, quel est le temps aujourd'hui?
Eh bien nous prendrons la direction du continent africain parce qu'il fait toujours aussi chaud et le Tchad en particulier car la compétition c'est aussi une formidable fenêtre ouverte sur le monde.
À tout à l'heure, le feuilleton, le festival d'Avignon et Olivier Py et son spectacle sur Hamlet que nous suivons grâce à Stéphane Capron et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui, les confidences d'une comédienne, Charlotte Valandré.
Comédienne révélée par le film Rouge Baiser, souvenez-vous, 1985, il y en a eu une dizaine d'autres et par la suite une trentaine de téléfilms et de séries télé. Elle a par ailleurs publié plusieurs livres où elle raconte ses combats pour rester en vie, sa séropositivité, sa greffe du cœur. Et la voilà maintenant chanteuse. Oui, Charlotte Valandré vient de sortir à tout à l'heure son tout premier album.
J'y pensais déjà à 15 ans, en fait. Et il paraît que j'avais dit à une journaliste que j'ai revue il n'y a pas longtemps, qui se souvient de l'interview que j'avais faite à ce moment-là, au moment de Rouge Baiser, j'avais dit « je préférerais chanter que de faire du cinéma ».
Des rêves de chansons.
Des ambiances de concert, quand tout le monde chante avec vous, il y a des solos de guitare, de je sais pas, de saxophone, qu'on danse, qu'il y a une osmose comme ça. Je suis pas partie en me disant « je vais vendre 1 million d'albums ». Non, c'est pour faire des concerts que j'ai fait cet album.
Le bal des illusions, mensonge à répétition, dire oui quand je pensais non, j'ai donné. La valse des petits marquis, des petits égos bouffis, la comédie de la vie, j'ai donné. Mais à l'âge et l'heure que j'ai, elle est nue, la vérité, sans fossile et sans faunée. Plus de temps, plus de temps, plus de temps à perdre. Plus de temps, plus de temps, plus de temps à perdre. Juste le temps d'aimer, d'aimer.
Vous avez toujours écouté la chanson ?
J'ai toujours écouté pas mal de musique, oui, mais surtout enfant, adolescente. Quand j'ai été séropositive à 18 ans, il y a quelque chose qui s'est un peu brisé en moi, donc j'en ai écouté quand même, on va dire, moins. Après ma greffe cardiaque, c'est pareil, j'ai eu une période quand même où le silence a fait partie de ma vie. Et aujourd'hui encore, j'aime le silence, mais je réécoute de la musique.
Forsake me. I'm loving angels instead.
Et c'est une chanson de Robbie Williams, quelle bonne idée qu'a choisi de nous faire écouter Charlotte Valandré.
Angels, un extrait de son premier album solo, année de sortie 1997. Ce chanteur, Robbie Williams, il est important, très important dans le parcours de Charlotte Valandré.
10 ans après ma grève, je pense, 8-10 ans, je me suis mis à écouter Robbie Williams. Et je l'ai écouté pendant des heures, mais des heures. J'allais remarcher, j'étais en Bretagne. J'allais marcher sur les chemins des douaniers et j'avais mon casque sur les oreilles. Et je pouvais l'écouter pendant 3, 4, 5 heures. C'est un personnage qui m'a touchée parce que j'ai vu un documentaire sur lui où, alors qu'il remplissait des stades de 50 000 personnes, il était dépressif. Je me souviens, il jouait au Uno dans son car, là, avec ses collègues. Je me disais, putain, toi aussi, t'es dépressif, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, je me sentais proche de lui. Et je me disais, mais viens me dire que tu vas pas bien, moi je vais te réconforter.
She won't forsake me. I'm loving angels instead.
Robbie Williams, Il a symbolisé une forme de renaissance ?
Une reconnexion aux notes de musique déjà, donc ça voulait dire quelque chose, c'était un pas vers la vie. Et puis le plaisir de fredonner ses chansons, d'être contente d'entendre de la musique. Quand on n'a pas eu d'envie pendant des années, c'est un premier pas. Et ce premier pas, je l'ai fait avec lui.
Cette chanson-là, spécifiquement ?
Bah, il parle à sa grand-mère, et moi j'ai été connectée pendant pas mal de temps avec l'au-delà, en fait. J'étais beaucoup plus à l'aise en parlant aux morts qu'en étant dans la vie de tous les jours. Donc, les anges gardiens, j'en ai, et c'est eux qui m'ont permis d'être debout et d'être ce que je suis aujourd'hui. J'aurais dû mourir plusieurs fois, je suis pas morte.
Vous pensez qu'on a des anges gardiens, tous ?
Ah oui, oui, je pense qu'on en a tous. Après, il faut être ouvert à ça, ou réceptif. Ma mère, quand elle est décédée, je l'ai sentie proche de moi très longtemps. Et c'est sûr qu'elle m'a protégée, et je pense qu'elle me protège encore. Et voilà, donc Angels, lui c'est sa grand-mère, moi c'est ma mère.
Angels, Robbie Williams, le choix de Charlotte Valandré, comédienne et donc désormais chanteuse, Frédéric.
Le CD de son premier album sort aujourd'hui même, son titre, à tout à l'heure.
Après avoir passé la journée d'hier à Avignon, quel plaisir, c'était dernier épisode de notre feuilleton Hamlet à l'impératif qui se déroule dans les jardins de la médiathèque Secano tous les jours à midi pendant la durée du festival. Et maintenant le grand jour, la première. On retrouve avec Stéphane Capron les comédiens Céline Chéen, Rendouane Ragel, Sébastien Weber, mais aussi de jeunes avignonnais amateurs qui se glissent dans la distribution. Et puis Olivier Py qui veille à tout, même à la répartition des chaises pour le public.
C'est très bien. Et toutes les chaises, tu vois, qui sont là-bas et qui sont trop excentrées, tu peux rajouter quand même.
Oui, là, mon ami, là, je peux en mettre devant la dame qui est assise là tout au fond, là, de oui, la porte verte.
Ouais. Tu me rajoutes 20 places ici et 20 places là-bas.
D'accord.
À l'aise.
Rémi, donc vous êtes
régisseur du lieu. Oui, de la salle, du jardin.
Oui, mais c'est une salle. Donc le rôle du régisseur général, c'est de veiller en fait à tout, à la fois oui, aux spectateurs, à la fois aux comédiens. Vous veillez vraiment à tout le monde.
Voilà, voilà. C'est vraiment, on va dire, un petit peu le chef de chantier avec les différents corps de métier et de mettre tout ça en ordre, conforme à la sécurité.
Bon, bah, je vous souhaite une bonne première.
Oui, très bien. Bah, merci beaucoup.
Merci.
Ouais,
merci. Bonjour Sébastien.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va, vous êtes prêts ?
Bah, je cherche mon taxe.
Bon, c'est pas tout ça, mais allez, il va me falloir un peu vous défoncer.
Bonjour Edouane.
Ouais, tu vas ?
Ça va ?
Ouais, super, super. On est super contents, prêts, et beaucoup de bonnes énergies, de bonnes vibrations, et je suis un petit peu ému.
Dans cet Hamlet à l'impératif, il y a des comédiennes et des comédiens professionnels, des étudiants qui sortent de l'ERAC-CM, l'école de Cannes et de Marseille, mais également des amateurs et des avignonnais, de jeunes avignonnais. Ce sont des lycéens, des étudiants. Alors, qui êtes-vous ?
Alors, moi, je suis Antoine. Je suis au Conservatoire d'Avignon.
Je suis Léni.
Et moi, je suis Emma. Je suis en prépa littéraire au lycée Mistral d'Avignon.
Et moi, je suis Louise et je suis aussi en deuxième année de prépa au lycée Mistral d'Avignon.
Et là, on est à quelques minutes du début de la première de ce Hamlet à l'impératif. Dans quel état êtes-vous ?
Assez excité, content de participer à ce projet en tout cas.
Moi je m'ai caché, du coup je suis plutôt serein, mais j'étais un peu stressé.
Pour l'instant ça va, les acteurs sont très présents pour nous détendre, pour parler avec nous, pour faire redescendre un peu la pression.
Moi je suis super stressée parce que c'est moi qui ouvre l'épisode
oui,
aujourd'hui. Et en plus ça va être rediffusé en direct sur le site du festival, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais après je suis quand même aussi ultra excitée, c'est une chance pour nous de pouvoir participer à ce genre de projet.
Cet épisode est consacré à la réplique la plus connue, de la pièce la plus connue, du dramaturge le plus connu, To be or not to be.
Ce que peut Hamlet, c'est interpréter ce qu'il a devant lui et brûler les échelles inutiles.
On a été transportés complètement. On a eu une leçon de théâtre fabuleuse.
Un feu d'artifice. Il y a de la joie, il y a de l'intelligence, de la créativité. C'est,
voilà, quoi. On est vraiment sur une scène et dans un cadre super, bon, d'accord. Mais voilà, on sent la présence de celui qui veut tout donner.
Céline Chen, ça y est, c'est la fin de la première.
La fin de la première, nous ne sommes qu'au début.
C'est la fin du premier épisode d'un feuilleton qui va nous emmener pendant tout le festival.
Tout à fait. Et là, il était temps qu'on partage, quoi. Qu'on partage ça avec le public. Et le public, en effet, enfin, moi, de ce que je vois du public quand je suis sur scène, il est happé, quoi. Et il y a un joli partage, quoi. Donc ça, c'est chouette.
Alors, Radouane, comment vous avez vécu ce premier épisode ?
Ben écoutez, je pense qu'on a tous pris du plaisir. Moi qui suis avignonnais, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de pouvoir faire ma part. Voilà, j'ai le sentiment quelque part de faire ma part pour les jeunes de quartier d'Avignon, voilà, dont je suis issu. Et voilà, j'ai beaucoup d'émotions en tout cas à jouer cette pièce ici dans les jardins de la médiathèque C'est Canon.
Une semaine dans leur vie, feuilleton signé cette semaine Stéphane Capron. Et un très grand merci à Lucie Lemarchand qui a réalisé le feuilleton du 13-14 toute cette année. Feuilleton que vous retrouvez sur franceinter.fr et en podcast. Ça s'appelle Une semaine dans leur vie au pluriel. Nous allons à Cannes.
France Inter, le 13-14.
Laurent Delmas, vous êtes toujours là ?
Toujours, Bruno, toujours pour vous.
Bon, quelle température à Cannes et ailleurs, parce qu'on regarde le monde entier à Cannes.
Oui, alors que ici à Cannes, côté baromètre et météo des plages, hein, c'est toujours 26 degrés minimum.
Bon.
Côté festival, donc ça va. Côté festival, on prend le rythme de la croisière qui ne s'amuse pas forcément. Hein. On a pu ainsi démarrer ce matin à 8h30 la journée avec une fiction allemande sur l'emprisonnement systématique des homosexuels en Allemagne après 1945. Mmh. Et hier, on a découvert Les Liens Sacrés, le nouveau film du Tchadien Mahamat Saleh Haroun, vous le disiez, en compétition pour la Palme d'Or et autres prix du jury présidé par Spike Lee. Ce cinéaste africain est un habitué de la croisette. Hein. Depuis son premier film Abouna en 2002, puis Darat en 2006. La plupart ont été présentés ici même. En 2010, son film « Un homme qui crie » a remporté le prix du jury. Et l'année suivante, le cinéaste est passé de l'autre côté du miroir en devenant l'un des membres du jury présidé cette année-là par Martin Scorsese. Et puis pendant un an, ensuite, il a mis sa vie d'artiste entre parenthèses pour devenir, tenez-vous bien, le ministre du tourisme et de la culture de son pays, le Tchad. Alors, éphémère carrière politique à un an, mais finalement peu étonnante pour ce réalisateur dont les films ne cessent d'être des miroirs sans concession tendus à la société tchadienne depuis les mariage forcé jusqu'aux ravages causés par la guerre civile, évidemment en passant par l'observation d'une jeunesse en mal de repère.
Et alors le nouveau film ?
Eh ben voilà, Les Liens Sacrés donc. Eh ben ça ne déroge pas à cette exigence qui, sur la base d'une fiction toujours charpentée, reflète cette fois les multiples facettes d'une condition féminine malmenée mais résistante. Avec au centre la relation d'une mère célibataire, évidemment rejetée par la société, et de sa fille victime à son tour d'un patriarcat violent. C'est dire si le propos est âpre, rugueux même. Bizarrement, le film semble refuser ce déterminisme au risque de se montrer presque atone. Drôle d'impression en vérité. Reste le vrai bénéfice cannois, celui d'avoir touché du regard des réalités si lointaines et si proches. Pour paraphraser Victor Segalen, que vous adorez, je le sais Bruno, ici le dehors s'invite au-dedans. C'est le monde entier qui pénètre dans les salles obscures, bousculant nos certitudes, loin de l'irresponsabilité touristique, tout près d'un décret cryptage souvent au scalpel de réalités nationales qui sont autant d'interrogations universelles. Alors, comme aurait dit Jean Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène, CQFD.
Laurent, on sort un peu de la compétition officielle aussi avec vous aujourd'hui ?
Bah oui, parce que Cannes, ce ne sont pas seulement effectivement les beautés de l'inédit, on peut aussi y découvrir ou redécouvrir des pépites cinématographiques du passé, restaurées pour l'occasion et diffusées dans ce berceau naturel qu'est la salle de cinéma, on ne le dira jamais assez. Parmi elles, Échec au porteur, par exemple, oui, Échec au porteur, du sous-estimé Gilles Grangier, dont les mémoires s'intitulaient allègrement, j'aime à le rappeler, Passer la Loire, c'est l'aventure. Tout un programme. Sorti en 1958, ce film à suspense avec Serge Reggiani, Jeanne Moreau et Paul Meurice, excusez du peu, est également un portrait de la France d'après-guerre avec banlieue parisienne en devenir et police s'émerveillant des techniques de communication moderne. Un petit régal en noir et blanc sans autre prétention que de divertir intelligemment son spectateur bénévole.
Et je note cette définition quasiment fétale de la salle de cinéma. La musique pour finir comme chaque jour, Laurent.
Bah oui, aujourd'hui, tout finit aussi par une chanson, celle que l'on entend dans Une jeune fille qui va bien, le premier film réalisé par Sandrine Kiberlin. Oui, j'ai bien dit réalisé par et présenté par Sandrine Kiberlin et présenté dans le cadre de la semaine de la critique. Dans la famille Kiberlin et derrière la caméra, après le film de la fille, tout récemment, je demande donc celui de la mère. On y entend un très beau titre du groupe Métronomie intitulé Love Letters et c'est maintenant.
L'éclectisme de Laurent Delmas, du cinéaste tchadien Mamad Saleh Haroun à Gilles Grangier en passant par le groupe Métronomie. À bientôt Laurent.
Bonnes vacances patron.
Merci, à bientôt.